France Inter.
Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Des soucis de neutralité à régler, mais pas de preuve de collusion avec le Hamas. Les experts qui ont enquêté sur l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens ne valident pas la thèse israélienne. Le détail dans ce journal. En France, un réseau de centres dentaires dans le viseur de la Sécu. Info France Inter, l'assurance maladie va déconventionner 10 d'entre eux après de multiples fraudes. Dans ce journal aussi, branle-bas de combat dans les vergers face au retour du gel. Et le CIO en visite dans les Alpes pour tester la candidature française aux Jeux d'hiver.
France Inter. Elle est dans la tourmente depuis le 7 octobre dernier au Proche-Orient.
L'UNRWA, victime collatérale du conflit entre Israël et le Hamas. L'État hébreu accuse cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens d'être infiltrée par l'organisation islamiste. Pour faire la lumière sur ces accusations, les Nations Unies ont mandaté un comité d'experts indépendants. À sa tête, l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Elle vient tout juste de rendre son rapport et il contredit en grande partie l'idée d'une organisation noyauté par le Hamas, Jérémy Lanche, même si des améliorations sont attendues.
Des problèmes de neutralité persistent au sein de l'UNRWA, dit le rapport. On pense aux manuels scolaires, aux contenus antisémites qui ont pu être utilisés dans le passé. On pense aussi aux employés de l'agence qui ont également pu poster des messages politiques, parfois violents, sur les réseaux sociaux. Mais ça ne date pas du 7 octobre, explique Catherine Colonna.
Il y a plusieurs années, il y a eu des cas d'employés qui n'avaient pas respecté leurs obligations de neutralité. C'est un phénomène qui est malheureux. Parce qu'il dessert l'organisation, il ne permet pas d'assurer ses missions.
Sauf qu'il ne faudrait pas réduire l'agence aux 32 000 employés. À cela, l'UNRWA sait qu'elle est scrutée de toutes parts. Elle a d'ailleurs un sens de la neutralité plus développé que beaucoup d'autres organisations internationales, dit Catherine Colonna. La démanteler, comme le demande Israël, serait une erreur.
L'UNRWA joue un rôle indispensable. Indispensable et irremplaçable. À l'heure actuelle, aucune autre agence ne pourrait se substituer à ce rôle qu'elle joue de fournir des services à une population qui n'a pas d'État, qui manque de tout.
Reste l'accusation de complicité d'au moins 12 employés de l'UNRWA dans l'attaque terroriste du 7 octobre. Une enquête interne est toujours en cours. Catherine Colonna ne se prononce pas sur cet événement précis, mais si des membres de l'UNRWA sont liés au Hamas ou au djihad islamique, dit l'ancienne ministre, Israël doit encore en apporter la preuve. À Genève, Jérémy Lanche, RFI pour France Inter.
Au Royaume-Uni, la fin d'une très longue bataille parlementaire, la loi prévoyant l'expulsion de migrants illégaux vers le Rwanda a été définitivement adoptée hier soir, 2 ans après sa présentation par le gouvernement de Rishi Sunak. Entre-temps, elle a fait l'objet d'un interminable bras de fer entre chambre basse et chambre haute du Parlement. Les premiers vols pourraient décoller d'ici 3 mois.
En France, tout un réseau de centres de santé dentaire sanctionnés par la Sécu.
C'est une information France Inter. L'assurance maladie va déconventionner 10 centres du réseau Nobel Santé Plus en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et PACA. La raison, des fraudes répétées pour un préjudice de près de 3 millions d'euros, Victor Delande.
Les 50 enquêteurs de l'assurance maladie surveillent depuis près de 2 ans les activités médicales du réseau Nobel Santé Plus. Leurs investigations ont ainsi permis de révéler des pratiques frauduleuses et récurrentes dans 10 centres de santé. Des fausses facturations de couronne, de bridge, de gouttière, des factures présentées à 2 reprises ou des actes jugés inutiles mais pourtant réalisés. À partir du 13 mai prochain, ces centres de santé seront déconventionnés pour des durées allant de 1 à 5 ans. Concrètement, l'assurance maladie ne remboursera plus les patients qui se rendront dans ces centres ou presque pas, moins de 1 euro par consultation. Les patients qui ont fréquenté ces établissements dans les 6 derniers mois seront informés de ces fraudes. Enfin, l'assurance maladie a déposé 10 plaintes pénales contre ce réseau de santé pour tenter de récupérer les 2,9 millions d'euros de fraude.
Les automobilistes franciliens vont devoir prendre leur mal en patience. L'autoroute A13 va rester fermée entre Paris et Vaucresson au moins jusqu'à mardi prochain inclus. La suite dépendra des travaux qui pourront être menés d'ici là pour combler cette fissure apparue à hauteur de Saint-Cloud après un mouvement de terrain. Prenez vos précautions aussi si vous comptez voyager en avion jeudi. Le trafic aérien s'annonce très perturbé en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel. Mobilisation record, affirment même les syndicats après l'échec des négociations sur la refonte du contrôle aérien. Selon les premières remontées, jusqu'à 3/4 des vols pourraient être annulés dans certains aéroports. Des températures négatives alors que les bourgeons sont déjà sortis. Le spectre des gelées blanches inquiète les agriculteurs. Le froid a fait son grand retour et il se maintient en plus jusqu'à la fin de la semaine. C'est le scénario redouté notamment par les arboriculteurs qui se protègent donc comme ils peuvent. Illustration en Dordogne avec ce producteur de pommes rencontré par Salomé Martin, France Bleu Périgord.
Au milieu du verger, Jérôme Pinault sort son smartphone. Il ouvre une application, c'est elle qui lui donnera l'alerte en cas de gel.
Vous le voyez, on a les températures et quand les sondes arrivent au seuil, elles sonnent sur nos téléphones. On fait déclencher les sondes à moins 0,5. Comme ça, le temps qu'on parte de chez nous, qu'on arrive sur le site du verger, on imagine qu'il est moins 1 et là, on enclenche.
Tout le long des ronds de pommiers, l'arboriculteur a installé des tuyaux. La chaleur dégagée par l'eau vaporisée protège les arbres et les pommes. Ces prochaines nuits, l'arboriculteur sait qu'il faudra sûrement déclencher le système.
Dis, la sonde, elle est où, là? Tout au bout, dans les galas?
Avec ses équipes, ils ont tout vérifié.
Je sais pas. La sonde, on l'a remise en route il y a 3 semaines. On a refait un test milieu de semaine dernière pour être sûr que nos moteurs démarrent, que nos pompes tournent, qu'il n'y ait pas d'asperceur de boucher, que tous les tuyaux soient bien mis en place, qu'il n'y ait pas de fuite. Ça se joue à ce moment-là, quoi, en fait. Et surtout que ça ne tombe pas en panne derrière pendant que c'est en train de fonctionner.
Le froid a déjà commencé à abîmer les fleurs qui abritent les toutes petites pommes. Jérôme Pinault en arrache quelques-unes.
Là, voilà, quand je tire dessus, elles s'enlèvent.
Il en tient une pleine poignée.
Le stade jeune fruit, là, 7-8 mm, est très, très sensible au froid. Le gel, là, il est très préjudiciable à ce stade-là. De la végétation.
Alors toute l'équipe se tient prête. Pour Jérôme Pinault, il est impensable de revoir impuissant le gel se répandre. Les précédentes années, il a perdu jusqu'à 50% de sa récolte.
Car les circonstances restent floues. 24 heures plus tard, la justice ouvre une enquête pour tentative d'homicide volontaire après la blessure par balle dont a été victime Kenji Girac tôt hier matin sur une aire de gens du voyage dans les Landes. Le chanteur a évoqué un tir accidentel qu'il aurait lui-même déclenché, mais le parquet estime qu'il manque encore des précisions, des éclaircissements. Le jeune homme de 27 ans doit être entendu dès que son état de santé le permettra. À Blois, un forain mis en examen pour homicide involontaire et mis en danger de la vie d'autrui après la mort ce week-end d'une jeune femme de 27 ans éjectée d'un manège. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une barrière de sécurité mal fermée qui serait à l'origine de cet accident.
Le monde parviendra-t-il à un premier traité contre la pollution plastique?
C'est tout l'enjeu des négociations qui reprennent aujourd'hui au Canada. Avant-dernière séance de pourparlers, alors que l'humanité étouffe sous la production de plastique, deux fois plus en 20 ans, moins de 10% est recyclé. Les ONG et certains pays comme la France ne veulent pas se contenter d'un meilleur traitement des déchets. Ils plaident pour une baisse de la production. Mais ça, c'est loin de faire l'unanimité. D'où cette coalition internationale de parlementaires que lance le député MoDem du Maine-et-Loire, Philippe Bolot.
Ce sujet de la pollution plastique, il revêt des enjeux très différents selon qu'on est en France, qu'on est au Japon, qu'on est en Colombie ou ailleurs. Les points sur lesquels on est absolument d'accord, c'est qu'il faut arrêter la croissance exponentielle de cette production de plastique qui envahit notre quotidien dans des usages qui sont parfois totalement inutiles, des objets de durée de vie très courte, non recyclables, non réemployables. Donc la réduction à la source du plastique fait partie de notre dénominateur commun. On ne dit pas qu'on ne veut plus de plastique. Et les plastiques sont absolument indispensables à notre quotidien. Je pense notamment à ceux qu'on utilise dans le domaine de la santé, quoi, à l'hôpital par exemple. Mais en revanche, ce qu'on veut absolument bannir, c'est tous ces usages parfaitement inutiles dans les emballages, dans la fast fashion, etc., qui font qu'on se retrouve avec des montagnes de déchets de plastique et qui se dégradent, qui font des microparticules dont certains pays ne savent quoi faire parce que malheureusement, on ne traite pas tout chez nous et parfois, on l'exporte vers d'autres pays.
Le député MoDem Philippe Bolot avec Sandy Dauphin. Les impacts sur l'environnement aussi au cœur du débat sur les JO d'hiver en 2030. Les Alpes françaises, seule candidate retenue, mais avant de prendre officiellement sa décision, le Comité international olympique vient d'entamer une tournée des sites pressentis pour les différentes épreuves, à commencer hier par le pôle ski nordique en Haute-Savoie. Reportage à La Clusaz, Marie-Ameline.
À 1500 mètres d'altitude, devant une carte géante, Fabrice Pannecouc, le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des espaces de montagne, détaille le futur plan du site olympique du domaine nordique des Confins.
On est à 7,3 km de piste, entre cette piste du haut et la piste qui est à côté du lac des Confins, qui se trouve en contrebas, qui sera davantage réservée au skating.
250 athlètes devraient fouler ces pistes, encouragés par 1200 spectateurs, dont 1500 en tribune. Les autres seront répartis le long des pistes dont l'enneigement est d'ores et déjà sécurisé, pas besoin de rajouter de canons à neige.
Le réseau de neige de culture existe déjà et l'ensemble des sites sur lesquels on organise des épreuves sont des sites qui ont bénéficié d'aménagements de neige de culture.
Sur cette piste des Confins, celle de son enfance Hugo Lapalus s'imagine déjà. À 25 ans, le fondeur de la Clusaz, médaillé de bronze en relais à Pékin, ne voit que du bon dans cette destinée olympique.
S'il y a des travaux, ça ne sera pas des travaux qui vont à l'encontre de ce qu'on a besoin. Donc si aujourd'hui on crée un bâtiment pour les Jeux, avec un local pour le club, avec une vraie salle hors sac pour les enfants ou pour même pour les touristes, c'est utile pour la suite.
Côté hébergement, tous les athlètes, fondeurs et biathlètes devraient être logés au Grand Bornand, au Chinaillon, dans une résidence privée avec laquelle le comité d'organisation a signé une convention.
La délégation du CIO doit se rendre aujourd'hui en Savoie pour les épreuves de ski alpin, puis ensuite dans les Alpes du Sud et à Nice. Décision finale attendue en juillet, c'est-à-dire juste avant les Jeux d'été de Paris.
Et oui, les JO de Paris qui débutent dans 94 jours, 127 pour les Paralympiques. On fait le décompte dans la chronique Esprit Sport. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour.
Aujourd'hui, portrait de la paranageuse Léane Morceau.
Oui, c'est une semaine importante pour elle, hein, Léane Morceau, qui peut décrocher les minima olympiques à l'occasion des championnats d'Europe de paranatation qui se déroulent en ce moment à Funchal, sur l'île de Madère. Alors, elle a 20 ans, elle est née dans le Poitou, licenciée à Limoges, et elle est malvoyante. Elle souffre en fait d'une neuropathie optique de Leber, maladie diagnostiquée alors qu'elle avait 8 ans, c'est-à-dire qu'elle a une vision tubulaire, hein, comme si elle voyait à travers une paille, mais ça ne l'a donc pas empêchée de se mettre à l'eau dès l'âge de 5 ans et de nager à un excellent niveau. Son entraîneur s'appelle Benoît Montpion. Il est au micro de Mickaël Chailloux de France Bleu Limousin.
Dès ses premières longueurs, elle s'est classée dans les meilleures françaises. Ça l'a propulsée en équipe de France, ça l'a propulsée au championnat d'Europe, du monde. C'est une belle histoire, alors qui demande encore à aller plus loin.
Léane Morceau, qui a intégré le Centre fédéral handisport en 2020. Elle s'entraîne avec les valides deux fois par jour dans l'eau, plus une fois en musculation. Alors, ses nages préférés, Mathilde, le dos et le papillon, où elle doit quand même, selon elle, encore progresser.
J'ai beaucoup d'explosivité, donc je pars très vite. Mais mon souci, c'est de revenir après. Donc, mon deuxième 50 mètres, c'est ce qu'on travaille le plus à l'entraînement. Je travaille aussi beaucoup les jambes parce que je suis vraiment nulle en jambes. Donc, voilà. Au niveau de la technique, ça va, mais c'est au niveau de la vitesse. Du coup, on fait pas mal de longueurs en jambes avec de la rapidité pour essayer d'améliorer tout ça.
Léane Morceau qui poursuit en parallèle des études de kinésithérapie dans une école pour malvoyants à Limoges.
Et ces Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre. C'était l'Esprit Sport de Cédric Guillou.